Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre quelque chose que je trouve très intéressant. J'espère que vous le trouverez aussi. C'est autour du sujet de l'implication des participants et à une étude scientifique. En fait, je trouve que c'est globalement un thème qui est sous-estimé quand on fait de la recherche. En revanche, quand on fait de la recherche en privé, ça devient un sujet très pertinent parce que des gens nous payent pour qu'on fasse participer des gens. Et c'est un petit peu de notre devoir et en fait la qualité de notre travail dépend de notre compétence à pouvoir engager les gens. Alors, au-delà de cette micro-introduction, je vais quand même poser un peu le cadre pour vous faire rentrer dans le monde de la recherche. Il faut savoir que en psychologie sociale, on fait des études où on a souvent besoin de beaucoup de gens, en gros des centaines de personnes, quand c'est des questionnaires en ligne et quand c'est des entretiens, plutôt plusieurs dizaines de personnes. Et un gros frein qu'on peut avoir dans la recherche, c'est d'avoir des réponses. Déjà d'avoir des réponses, pour même un questionnaire qui dure 10-15 minutes, on galère à avoir des centaines de réponses. Et d'autant plus pour les hommes. Faut savoir qu'on a du mal à impliquer les hommes dans les études scientifiques, en tout cas en psycho. Et pour les entretiens et des dispositifs qui sont encore plus coûteux, c'est d'autant plus compliqué. Généralement, on le prend un petit peu comme une fatalité, alors que, certains chercheurs s'y prêtent, surtout en psychosocial, parce que justement, en psychologie sociale, on nous apprend à manipuler, mais on nous apprend la science du comportement, et au-delà de manipuler, on nous apprend à engager, à investir, à donner envie aux participants de participer à des études. Et peut-être que des fois, on ne l'utilise pas assez. Et je me suis prêté à l'exercice d'utiliser mes connaissances en psychologie sociale pour faire de la recherche en psychologie sociale, on va dire, en psychologie, pour un des contrats, une de mes missions. Je ne vais pas parler précisément de la prestation, mais je vais vous donner une idée de ce que je fais et de comment je m'y suis pris, en tout cas en partageant vraiment ce qui me concerne moi, ma prestation, et pas ce qui concerne le client. Globalement, je suis associé à une étude scientifique dans laquelle j'ai des entretiens à faire. Des entretiens pour évaluer un dispositif où des gens sont inclus dans un dispositif de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et mon but, c'est d'avoir les gens au début du dispositif et à la fin du dispositif pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça a eu un impact sur leur vie, etc. Donc, on me propose de faire en sorte d'avoir le plus de gens possible d'impliquer les personnes dans l'étude. Et il faut savoir que plus j'ai de personnes, plus l'étude est un petit peu plus robuste. Donc, on a essayé de faire un premier pré-test, parce que c'est des dispositifs où il y en a plusieurs dans l'année. Et j'ai fait un premier test sans stratégie de communication ni d'engagement particulière, c'est-à-dire en envoyant tout simplement un mail et potentiellement des SMS aux participants de ce dispositif en disant voilà, je fais partie de la structure, on fait une étude scientifique, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que tu peux prendre rendez-vous, etc. Je me suis basé sur une trentaine de personnes et sur ces 30 personnes, j'ai pu avoir 5 rendez-vous avec 3 rendez-vous effectifs. C'est-à-dire des décommandes au dernier moment, au début du programme. Et à la fin du programme, c'est plusieurs mois après, je n'ai eu que un rendez-vous. Et 3 mois encore après, j'ai eu 0 rendez-vous. Donc, j'ai perdu la totalité des personnes par une communication un peu marketing classique. J'en ai conclu que j'étais face à des gens qui étaient un peu difficiles à engager, parce que voilà, normalement, je faisais partie d'un dispositif où il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup plus, mais j'ai fait quelques tests et où, du coup, j'ai remonté mes manches et je me suis dit, OK, il va falloir que je relève le niveau et que j'essaye d'utiliser un peu d'armes de psychologie sociale pour engager les participants dans l'étude. Je vous partagerai aussi après ce que ça implique et je vous ferai un point sur la culture scientifique, sur les recherches qui incluent des personnes actuelles, quelle est la culture actuelle, pour vous montrer que ce sont des sujets qui sont en plus d'actualité. Alors après avoir passé une première version finalement ratée, qui était faite pour être un test, donc j'ai pas nui à ma mission, mais le test a montré des manquements dans ma communication. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire un parfait petit exercice de psychologue social et on va essayer de réfléchir et d'appliquer la thématique, comment engager les personnes dans une recherche scientifique. Sachant que quand on est étudiant, souvent on utilise des trucs et après on finit par dire si vous voulez faire avancer la science, si vous voulez faire avancer la science, on joue un peu sur l'émotion, aidez-moi à finir à finir mon diplôme. Et en fait, ça ne marche pas très bien, je trouve. Et moi, j'ai essayé de faire les choses autrement en me basant sur des modèles de psychologie sociale qui sont au nombre de trois et que j'ai opérationnalisé, c'est-à-dire que je me suis basé sur la théorie. Et j'en ai défini des règles et des manières d'agir pratiques. Et j'ai envie de vous partager cette stratégie parce que, de un, ça montre un petit peu ma compétence dans le domaine de la recherche. Et vu que c'est ce que j'ai envie de faire, et au moins, vous voyez que si vous me proposez de faire une étude scientifique avec vous, j'ai des modèles pour essayer d'engager les personnes. Mais aussi parce que je trouve que c'est quelque chose de super intéressant pour mon public potentiel qui est peut-être dans les sciences humaines et sociales, d'avoir quelques billes pour investir les personnes dans un projet. Ce sont des armes que je transmets dans des formations et dans des cours, et qui sont donc applicables à divers domaines. Mais là, voilà, on a une explication concrète de comment on peut utiliser la psychologie sociale pour impliquer les participants dans une étude. Alors, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, on va rentrer dans le concret. Et c'est là où je suis content de faire des épisodes mono-sujet parce que je peux enfin avancer et vous apporter quelque chose au lieu de vous dire à quel point j'ai stressé et si j'ai bien dormi cette nuit. Le premier modèle que j'utilise, c'est le modèle de l'autodétermination de Dutty et Ryan, qui ont fait, je crois que la meilleure référence à citer, c'est 91 et 2007, qui est une réédition de leur livre. Mais qui est un monstre de théorie, un énorme modèle très connu en psychologie sociale, qui est sur le sujet de la motivation. Bon, mes excuses pour les experts, hein, je vulgarise et je l'utilise uniquement à des fins opérationnelles et pour que les gens comprennent là où je veux en venir. S'il y a des thésards sur la TAD, la théorie d'autodétermination, mes excuses. Je ne l'ai pas parfaitement, même si j'ai quand même lu et j'échange avec des experts du domaine assez souvent, mais évidemment, on est toujours moins expert qu'un expert. Donc, cette théorie de l'autodétermination explique la motivation comme quelque chose d'autodéterminé. Donc, ça définit la motivation comme une énergie qui va dans un certain sens. À vouloir faire quelque chose, à se déterminer soi-même de faire quelque chose, à être soi-même déterminé, d'où l'autodétermination, et qui base un principe général, je court-circuite un petit peu pour les experts encore une fois, que en gros, la motivation la plus stable et la plus saine vise à être dans des dispositifs où les besoins fondamentaux sont respectés. C'est-à-dire que je vais être motivé à plus long terme et dans une mesure plus saine, plus stable et plus interne, si on respecte mes besoins fondamentaux qui sont au nombre de trois, l'autonomie, la compétence et l'affiliation. J'ai pas envie de faire un cours, donc voilà, je vais essayer de aller entre vous donner les infos pour que vous compreniez, ne pas faire un cours, et vous donner surtout ce que j'ai fait pour que vous compreniez à quoi ça sert et aller un peu au-delà, parce que ce que je vous ai dit, ça peut être lu dans les livres, et ce que j'ai fait, au moins, c'est un retour d'expérience. Certes que ChatGPT aurait pu produire, mais au moins, je peux vous dire ce que j'ai fait vraiment et ce qui a marché ou pas. Donc, en me basant sur les besoins fondamentaux, je me suis dit, mes participants, pour qu'ils soient investis dans ma recherche, il faut répondre à leurs besoins fondamentaux. L'autonomie, donc il faut qu'ils aient l'air d'être assez libres de leur choix, que l'activité aille dans le sens de leurs valeurs, de ce qu'ils aiment faire, de ce qui leur correspond. Donc, je me suis dit que certes, j'avais un entretien à faire pour voir ce qu'ils pensent du programme, du dispositif avant-après, mais je me suis dit qu'il fallait qu'ils y retrouvent quelque chose, une certaine marge de manœuvre et qui puisse également avoir quelque chose qui leur est propre. Et dans ce sens-là, j'ai fait un dispositif déjà où les personnes pouvaient sélectionner leur heure comme ils voulaient, avoir un certain degré d'autonomie sur le format, c'est-à-dire allumer sa caméra, éteindre sa caméra, le faire par téléphone, et surtout baser les rendez-vous sur le volontariat. Et non pas sur un système d'obligation avec des relances. Donc ça, c'était le premier angle de communication. C'était globalement le volontariat, essayer de laisser une certaine latitude décisionnelle pour prendre les rendez-vous et le format. La deuxième dimension, c'est le besoin de compétences, donc le besoin de se sentir compétent. Ça, je me suis dit, ça m'a rappelé le fait que vu que j'allais les voir au début et à la fin d'un dispositif, je pouvais mettre en avant le fait que ça pourrait être pertinent pour eux de voir leur évolution. Et le fait de me voir au début et à la fin permettra d'avoir un temps d'échange pour pouvoir marquer leur évolution et se rendre compte de l'impact de leur engagement dans le dispositif sur eux-mêmes pour valoriser leurs efforts. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté. En fait, quand je dis que j'ai ajouté, c'est que j'ai écrit pas mot à mot, mais j'ai écrit les grandes lignes d'un pitch que j'allais faire quand j'allais voir tout le monde, et en essayant de me dire, bon, si je devais avoir un argumentaire de plusieurs phrases, lesquelles seraient? Donc, le premier, c'est que je savais que j'allais mettre un peu d'autonomie, un peu, vous êtes libre, on va voir. C'est aussi une autre technique d'engagement, de dire que vous êtes libre, mais pour moi, ça renvoie aussi au besoin d'autonomie. Pour le besoin de compétences, c'était de dire, bah, c'est aussi un moyen pour vous de vous rendre compte de à quel point le dispositif est important pour vous, de valoriser vos efforts et de percevoir l'évolution avant-après. Donc d'être un support à leur perception de compétences. Donc c'est là où je me suis dit que je pouvais répondre à leurs besoins de compétences. Évidemment, répondre aux besoins de compétences, c'est aussi moi, mais ça je le fais naturellement, mais c'est aussi avant, pendant, après les entretiens. Renforcer sur la qualité de l'entretien. C'est aussi mettre dans un dispositif dans lequel ils ne perdent jamais, parce que on peut renforcer, satisfaire le besoin fondamental, mais on peut aussi le frustrer. Et donc, il faut aussi réfléchir à ne pas le frustrer. Donc, c'est aussi important d'essayer de valoriser leurs besoins de compétences que de au moins essayer de ne pas le frustrer et donc d'enlever toute perspective de compétition et de comparaison. Et donc, moi, ce que je dis pour faire des entretiens, c'est que, et c'est vrai, hein, que j'ai aucune attente de fond ou de forme et que ce n'est pas parce qu'on parle longtemps qu'on parle bien, parce qu'il y a une petite pression à se dire, et je l'ai vu en fait. Quand je disais c'est des rendez-vous qui peuvent durer jusqu'à 1 heure, les gens se disaient mais j'ai pas de quoi parler pendant 1 heure et ça fait peur parce que ça remet un petit peu nos compétences en jeu. Et donc, en plus de essayer de satisfaire le besoin de compétences, on peut essayer aussi de ne pas le frustrer et donc de dire vous inquiétez pas, j'ai pas d'attente. Ce que je veux, c'est que vous parliez uniquement de ce que vous pensez, de comment vous ressentez les choses. Et voilà, j'ai aucun jugement. Donc, avec cette seule phrase, on peut pousser un petit peu sur le besoin d'autonomie en disant ce qui m'intéresse, c'est vraiment Toi, c'est ce qui te concerne, toi, parce que l'autonomie est un peu plus large que laisser du temps, laisser une marge de manœuvre. C'est aussi correspondre à qui est la personne, à sa manière de voir les choses, de dire les choses. Et du coup, de dire, moi, tout ce que je veux, c'est que tu dises ce que tu as en tête et que si tu as envie de répondre, tu réponds. Si tu n'as pas envie de répondre, tu n'as pas envie de répondre et que vraiment ce soit un espace pour toi. Ça, de un, satisfait le besoin d'autonomie. Et de deux, ça ne frustre pas le besoin de compétences parce que on met les gens dans une condition win-win où, dans tous les cas, tout ce que je veux, c'est que tu sois toi-même. Donc, si tu es toi-même, tu vas gagner à mes yeux. Pour la troisième dimension, qui est le besoin d'affiliation, donc le besoin de se sentir associé à d'autres personnes et à moi. Ce qu'il ne faut pas oublier dans le besoin d'affiliation, c'est que celui qui mesure fait partie aussi du dispositif. Et donc, c'est intéressant que les personnes se voient, se sentent associées, affiliées à moi. Et ça a été, je trouve, mon idée la plus intéressante et la plus percutante, qui était de me dire, il faut qu'ils se sentent un petit peu partie de mon groupe affilié et que j'ai pas l'air d'être un psychologue externe qui va les analyser. Et donc, j'ai beaucoup orienté ma stratégie de communication et de manière de me présenter sur le fait que j'étais jeune, parce que j'étais face à un public de jeunes, et que je pouvais leur ressembler, mais surtout, en fait, j'ai fait partie du dispositif, donc j'étais inclus dans les premiers moments, ce qui fait que je les ai vus, et en fait, j'étais à leur place au même moment qu'eux, j'ai fait partie du groupe à un moment. Ce qui fait que je me suis présenté comme eux, on s'est tous découverts et que je me suis un peu noyé dans la masse. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué de aller les voir sur le terrain et pas juste de leur envoyer un message, de me comporter assez naturellement, mais aussi un petit peu stratégiquement, de faire mon pitch en essayant de dire, vous inquiétez pas, vous dites ce que vous voulez, vous prenez un rendez-vous quand vous voulez, et en plus, vous allez pouvoir avoir une évaluation de votre... Pas une évaluation, hein, j'ai pas d'évaluation parce que ça fait très évaluatif et ça met la pression, mais vous allez pouvoir voir l'impact que le dispositif a sur vous, et du coup, c'est potentiellement valorisant pour la personne. Et surtout de me montrer, d'être souriant, d'être sympa, de faire la discussion, ça permet que les personnes se sentent affiliées à moi et donc potentiellement au projet. Et donc, voilà comment un premier modèle m'a permis de me dire, je satisfais des besoins fondamentaux vis-à-vis de ce dispositif, et donc les personnes pourraient être un peu plus engagées, avoir un peu plus envie de s'investir sur le projet. Ça, c'est le premier modèle que j'ai utilisé. Le deuxième modèle que j'ai utilisé, donc c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est ces modèles-là que j'ai eu en tête et qui ont construit un petit peu ma manière, mon approche, tout simplement, pour impliquer les participants dans l'étude. Le deuxième, c'est un autre modèle. Alors, moi, il faut savoir que ma manière de faire de la psycho pour le moment, c'est d'utiliser des modèles qui sont très connus et qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher de la science sur l'implication des participants dans des études en psychologie sociale, mais juste comment impliquer les personnes et je vais essayer moi de préciser et d'opérationnaliser sur quelque chose de plus précis. Et donc un autre grand modèle, hein, faut savoir que si vous ne connaissez pas, ne pensez pas que je suis un expert de mon domaine. Hein, quand on parlera de la confiance, je ferai le geek de la confiance avec des articles que personne n'a lus. Là, il faut savoir que je vous sors des grosses références hein, que n'importe quel psychologue social aura déjà vu et entendu. Le deuxième sujet, enfin le deuxième modèle, pardon, c'est la théorie du comportement planifié, TCP, par Ashzon, qui, pareil, explique quels sont les sujets, les variables, les causes d'un comportement. Encore une fois, j'essaye de vous éviter le côté court, mais globalement, ce qu'il dit, c'est que ce qui prédit le comportement, c'est l'intention. Donc, la meilleure manière de savoir si on va faire quelque chose, c'est d'avoir l'intention de le faire. Ça, c'est assez logique et on ne peut pas trop discuter plus longtemps que ça dessus. En revanche, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on prédit, ce n'est pas le comportement, c'est l'intention. Donc, c'est un parti pris hein, de dire que chaque comportement est précédé d'une intention qui est discutable. Mais en tout cas, on se place dans un cadre où le postulat est qu'on a l'intention de faire les choses avant de les faire. Et quand on veut modifier l'intention, on peut jouer sur trois bulles. Je dis bulles parce que j'ai le modèle en tête, mais on peut jouer sur trois sujets. L'information que la personne a sur le comportement, les normes à propos du comportement et le contrôle perçu du comportement. Globalement, les informations, c'est juste de se dire, ben, je ne vais pas aller dans une étude scientifique si je ne sais pas vraiment pourquoi, à quoi ça va me servir, quelles sont les conséquences, et puis un peu essayer de lever les croyances qu'il peut y avoir dessus. Donc globalement, je me suis dit, et c'est très bête, mais c'est intéressant de passer par des modèles pour être précis sur sa communication. Je me suis dit, d'accord, dans mon pitch du début, pour expliquer à quoi va ressembler l'étude, il faut que je sois déjà très clair sur, il va se passer ça, ça va être des entretiens à tel temps, on va avoir tel type de questions, nous, ça va nous servir à ça, vous, ça va vous permettre ça, déjà donner toutes les informations pour enlever l'incertitude et donner un petit peu de contrôle. En plus, il faut essayer de jouer sur les croyances potentielles. Donc moi, je sais que quand je viens en proposant une étude scientifique, ça fait peur. Je renvoie quelque chose d'assez froid, de se dire, OK, ça ne va pas être un bon moment. Donc, je fais un point d'honneur à dire que ça va être sympa, que c'est court, que les questions ne sont pas difficiles, qu'il n'y a pas de pression à avoir, qu'il n'y a pas de préparation à avoir. Voilà, j'essaye de faciliter la compréhension et lever certaines croyances. Et en faisant ça, vous allez voir que j'utilise aussi le troisième sujet de ce gros thème de donner les bonnes informations. C'est que, enfin non, de, plutôt de l'autre thème du contrôle perçu, c'est que je facilite le contrôle, l'accessibilité en donnant des informations. Je montre que c'est pas si compliqué d'être impliqué dans cette étude. Bon, pour l'instant, on est dans la grande partie information, dans laquelle je donne les informations tout simplement, essayer d'être assez clair et exhaustif sur à quoi ça va ressembler pour eux d'être impliqués dans l'étude. Lever quelques croyances en essayant de me dire ou de recueillir, hein, parce que vu que j'ai eu des personnes avant, je me rends compte, elles m'ont dit on a eu peur de ça, on a eu peur de ça. Donc je dis c'est pas trop long, c'est pas chiant, les questions sont simples, il n'y a pas besoin de préparation, parce que je sais que c'est les trucs qui viennent en tête, donc ça, je rassure directement dessus. Et je donne des informations sur les conséquences de faire le comportement, et donc là, les conséquences de participer. Donc, globalement, ce que je leur dis, c'est que je renforce sur le fait que participer à l'étude, ça permettra de faire le point sur leur évolution et d'être plus clair avec eux-mêmes sur à quel point ça a été intéressant pour eux d'avoir participé au dispositif. L'erreur, enfin, je pense que ça aurait pu être une erreur de dire c'est important parce que nous, ça va nous permettre de. J'ai voulu, moi, orienter ma communication vers c'est important et intéressant pour vous parce que si vous le faites, vous allez en savoir plus sur vraiment l'impact que le dispositif a sur vous et on pourra voir les choses plus clairement. Et évidemment, il faut être honnête à dire que bah, nous, c'est une étude, ça nous permet aussi, mais je pense qu'il faut aussi savoir apporter aux participants pour les inclure et renforcer le fait que ça va être utile pour eux aussi, que ça va être un bon moment aussi pour eux. On pourrait mettre plein de théories de psycho hein, dedans, mais voilà, je me base sur des modèles et je vous dis comment j'ai fait du coup pour impliquer ces personnes. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous dire combien j'ai eu de personnes, évidemment, et comment entre sans pas de modèle SMS et des modèles en essayant d'impliquer les gens, à combien j'ai pu avoir de rendez-vous dans cette deuxième version. À 10, c'est beaucoup. Et je suis content, c'est pour ça que je vous en fais part aujourd'hui. Deuxième sujet. C'est celui des normes. Donc là, c'est important, quand on fait un comportement, d'avoir une idée de à quel point les gens en général ou les gens de notre groupe font ce comportement. C'est-à-dire, si tout le monde se vaccine, on va avoir tendance à plus facilement se vacciner. Si tout le monde se marie autour de nous, on va avoir plus vite tendance à avoir envie de se marier. Et donc, c'est intéressant de donner à un participant l'idée que le programme et le dispositif a déjà eu lieu, que j'ai déjà fait des entretiens avec des participants. Et en plus, c'est intéressant de dire que ces participants ont déjà passé un bon moment. pour essayer de pousser l'impression, mais l'impression est véridique, mais du coup, avancer cet argument stratégiquement, de dire, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les premiers, et ceux qui l'ont déjà fait ont déjà apprécié. Et donc, ça faisait partie, c'est un argument en plus que j'ai ajouté pour pousser un petit peu à l'action et dire, mais vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait, ça se passe bien. Les gens m'ont dit que c'était intéressant parce qu'ils apprenaient des choses sur eux. Voilà. Là, vous comprenez qu'un argument peut rentrer dans trois théories et permettre beaucoup de choses. Si en une phrase, enfin, là, je décrypte en vous donnant des exemples, mais parfois, là, tout ce que je vous ai donné depuis 20 minutes, ça peut être fait en 15 secondes, trois phrases. Mais moi, quand je l'ai dit, je sais que j'essaye de pousser tel curseur pour inciter à l'action. Donc, voilà. La plupart des gens. Enfin, où il y a déjà des gens comme vous qui l'ont fait, et ils en disent du bien, ils m'ont dit que ça se passait bien, etc., que c'était facile. Voilà. Troisième sujet, pour inciter au comportement d'après ce modèle de la théorie du comportement planifié, pardon, c'est la notion de contrôle. Et donc, donner du contrôle et aussi faciliter l'accès, ouais, faciliter l'accès, augmenter l'accessibilité. Au comportement et donc là, dans mon cas précis, au dispositif, à cette étude scientifique. Et donc, il faut donner du contrôle, il faut que ce soit facile et il faut que les personnes aient de l'emprise, du contrôle sur cette étude. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, en fait, déjà, leur donner des informations, c'est leur donner du contrôle, savoir combien de temps ça va durer, comment ça va se passer, quelles questions vont être posées. Je ne donne pas exactement les questions parce que le but, c'est que ce soit à chaud, mais j'essaye de donner le plus que je peux, de dire ça va être sur tel sujet, il n'y a pas besoin de se préparer. Voilà, essayer de donner toutes les cartes en main pour que les gens se rendent compte le plus précisément possible selon vos objectifs de comment ça va se passer pour qu'ils aient une maîtrise de la situation et qu'ils soient dans le moins d'inconnu possible. Évidemment, je ne peux pas te dire les questions à l'avance parce que les gens se préparent. Et quand on se prépare, on n'a pas exactement les mêmes réponses que à chaud. Et là, moi, ce que je voulais, c'était les réponses à chaud. Donc, pour donner du contrôle, déjà, on donne le plus d'informations possible. Mais aussi, eh ben, on facilite l'accès, c'est-à-dire qu'on rend le truc le plus facile possible. C'est-à-dire que moi, tout simplement, eh ben, j'ai mis en place un Calendly, donc une manière de gérer les rendez-vous numériques. Et j'ai mis un QR code. Donc, globalement, quand tu es chaud pour prendre un rendez-vous, tu peux flasher le QR code et tu arrives direct sur un truc de calendrier. Tu sélectionnes ton créneau et c'est bon, tu as pris ton rendez-vous. Après, moi, j'ai fait des rappels automatiques et puis même pour modifier, annuler, décaler le rendez-vous, c'est assez simple. Et donc, moi, là, pour le coup, me reposer sur un service qui est Calendly, ça me permet de rendre l'action assez facile et donc pas trop chiante et faciliter l'accès à mon étude finalement. Voilà pour le deuxième modèle. Donner des informations, lever les croyances et expliquer les conséquences. Donc ça, c'est le 1. Le 2, c'est jouer sur les normes. D'autres gens l'ont déjà fait. Et le 3, c'est donner du contrôle, de la maîtrise par l'information et par la facilité de l'action. Troisième grand champ théorique, et je vous aurais fait un cours de psychologie sociale en 30 minutes Et croyez-moi, c'est des modèles qui sont importants et parfois c'est transmis en fac depuis, enfin, sur beaucoup plus d'heures, mais de manière beaucoup plus exhaustive et précise, évidemment. Le troisième modèle que j'ai eu en tête, c'est plus un champ théorique qu'un modèle, c'est celui de l'engagement. Pour ceux qui connaissent, parce que c'est le livre qui est le plus connu du grand public, c'est globalement les idées qui sont transmises dans le Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens, qui est basé sur la théorie de l'engagement. Et je me suis basé sur des grandes règles qui sont transmises dans la théorie de l'engagement, qui sont le fait que pour que quelque chose engage, donc déjà la théorie de l'engagement, c'est être engagé dans un dispositif, dans un processus, se sentir investi, donc se sentir engagé. Pour se sentir engagé, il y a une condition qui est qu'il faut que l'action soit perçue comme libre, il faut que j'ai l'impression d'être libre. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà plus ou moins validé et que je mets en avant dans ma communication en disant, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'annuler les rendez-vous, c'est sur la base du volontariat. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes et qui m'ont permis d'ajouter quelque chose dans ma stratégie de d'acquisition des participants que je trouve encore le plus aussi pour moi. Il y a deux très bonnes choses que j'ai faites parce qu'elles sont plus rares et un peu plus précises parce que le reste c'est de la communication et sans faire exprès on peut déjà transmettre ses idées. Donc la première, c'était de me déplacer et de faire les premières journées avec les participants pour me sentir dans le groupe et qu'eux se sentent dans le groupe et qu'ils voient que j'ai à peu près le même âge et qu'on est pareil et qu'il y ait un sentiment d'affiliation. Et le deuxième, c'est pour répondre à deux critères pour engager une personne, enfin engager plus une personne, c'est que les actions soient perçues comme difficiles à retourner en arrière, donc plutôt irréversibles, et publiques. Ensuite, il y a des critères qui disent que une action, pour qu'elle soit engagée, il faut qu'elle soit répétée, et il faut qu'elle soit un peu coûteuse, c'est-à-dire que ça demande quand même quelque chose, que ce soit pas trop facile de juste se baisser, de ramasser un stylo ou de ramasser un portefeuille dans la rue qui est juste à nos pieds, mais il faut que ce soit quelque chose qui demande un petit peu d'énergie, de courage, de temps, pas forcément d'argent, mais potentiellement, mais voilà, qui soit coûteux en termes de charge mentale, de temps, etc. Et donc, en prenant ces derniers critères, mais surtout le fait que c'est lorsqu'on fait les choses ou dit les choses publiquement et qu'on a l'impression que c'est irréversible, qu'on se sent engagé dans un processus, que je me suis dit, je vais me déplacer, faire les premiers jours avec les personnes, mais je vais prendre une feuille avec le nom et le prénom de tout le monde et je vais leur demander de mettre en avant leur volontariat en signant. Enfin, non, je n'ai pas demandé de signer. Si, j'ai demandé de signer, je crois. J'ai demandé de signer et de dire potentiellement une disponibilité prochaine qui pourrait les intéresser pour valider publiquement, sans trop mettre de pression. Hein, c'était public parce qu'on était en groupe et du coup j'aurais dit bah voilà, à la fin de la journée, n'hésitez pas à mettre à signer sur la feuille. Non, c'était nom prénom, je crois. À mettre votre nom prénom sur la feuille et ça voudra dire que vous êtes volontaire. Et je pense que le fait d'avoir fait ça marque un petit peu plus que d'avoir dit oui en tête à tête ou par mail. En tout cas, ça correspond à cette théorie de dire que quand on dit qu'on est d'accord en public, ça engage plus que de dire qu'on est d'accord en petit comité. Et en plus, ça rend la chose un peu plus irréversible, c'est-à-dire que j'ai une preuve précise que bah, tu étais volontaire. Donc évidemment, les personnes ont droit de se rétracter. Et c'est là un petit peu toute l'ambivalence finalement de l'intrication de ces modèles. C'est que il faut que les personnes aient le sentiment d'être libres, et ils le sont. Mais il faut quand même montrer que bah, tu es un peu investi dans un truc, donc ça m'embêterait quand même que tu annules. Mais il faut pas que ce soit répressif et dire tu es obligé de le faire. Il faut qu'ils aient du contrôle, mais qu'il y ait un sentiment quand même de voilà d'être engagé. Donc ça fait partie des choses qui sont difficiles à travailler. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait comme ça. Il y a une signature. J'en dis pas plus et je dis pas bon voilà, maintenant tu as signé, tu dois venir. Mais voilà, je me dis que par mon processus et par l'accumulation de toutes les petites idées que j'ai eues pour investir les personnes, et bah ça fait un petit truc en plus qui est en plus bah, une sous-théorie, une sous-application de cette théorie de l'engagement qui est le contrat co comportemental. Alors je me lance totalement dans le vide, mais je crois que j'ai un flash de cours qui me dit que c'est Pollack. Et Cummings qui a fait ça. Voilà, il n'y a pas de fact-check, mais tiens, je vais faire une pause et je vais vérifier. Ok, alors je viens de vérifier, je me souviens bien de mes fiches, mais sur lesquelles il y avait une erreur. Donc en fait, sur mes fiches de psycho, j'avais marqué Pollack et Cummings, et en fait, c'est Pollack et Cummings, mais je suis quand même content, j'ai sorti la ref. Donc en fait, c'est simplement le fait de lorsqu'on rédige quelque chose, qu'on signe un contrat, et bah, c'est quelque chose qui engage le plus. Et inspiré un peu de cette étude, bah, je me suis dit, ok, je vais faire un truc où tu mets ton nom, ton prénom. Et en fait, la vérité, c'est que si je veux, je peux avoir les coordonnées de tout le monde et leur envoyer un SMS. Mais là, il y a quelque chose de dire, donne-moi ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et une potentielle disponibilité pour me dire que tu es volontaire. Et donc ça marque le fait que la personne est volontaire dans une condition publique. Donc j'ai pas mis les gens au bûcher en disant levez la main et assumez maintenant. Mais voilà, c'était quand même dans un cadre public et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais appliquer de la psychosociale pour engager les personnes. Donc théorie de l'autodétermination, théorie du comportement planifié et théorie de l'engagement m'ont servi à définir une stratégie de communication, c'est-à-dire quelles informations je vais transmettre, mais aussi comment je vais me comporter face aux gens et qu'est-ce que je vais faire dans le dispositif pour impliquer les personnes. Et donc je suis passé de 5 personnes sur 30, mais surtout en finissant à une personne sur une, puis 0 personne sur 30, à 25 entretiens. Sur, je crois que j'ai eu la moitié à peu près des personnes, des participants, 26 entretiens. Sachant que investir la moitié de participants dans un dispositif, c'est quand même très correct, hein. Vous êtes peut-être déçus, mais on n'a pas les armes en psycho parce que les humains sont des objets d'études complexes d'avoir 100% des personnes, mais d'avoir chopé la moitié des participants, c'est quelque chose qui est très satisfaisant pour moi, et surtout d'être passé de 5 à 25, c'est quand même un gros saut. Donc c'est sympa de se dire que notre science fonctionne et de se dire que j'ai pu choper 20 personnes en plus qu'avec un dispositif classique. Et voilà pour la démonstration, l'explication de comment j'ai fait pour impliquer des participants dans une étude scientifique. Alors, avant de conclure, je voulais en plus remettre un petit peu de culture scientifique moderne sur le sujet. Il faut savoir que la question de l'inclusion des participants et du partenariat patient et du partenariat participant, c'est des choses qui sont très discutées en ce moment dans la science et en santé. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui a un peu changé ma manière de voir la science et surtout les participants, en me disant que, bah, en fait, peut-être que pour investir et engager les personnes dans nos recherches scientifiques, et bah, ça peut être un peu intéressant de se creuser la tête sur comment on peut leur apporter quelque chose, parce que, bah, mine de rien, tout basé sur l'empathie, l'entraide et l'amabilité profonde des participants pour nous aider dans nos recherches, et bah force est de constater qu'on a une minorité de personnes. Et on pourrait réfléchir à se dire, mais comment on peut apporter quelque chose aux gens? Et c'est un peu en utilisant mes modèles de psychosocial, mais aussi de cette culture, enfin imprégnée de cette culture qui commence à grandir en moi, de me dire, mais et si en fait, au-delà du fait que c'était eux qui m'aidaient à faire quelque chose, c'est-à-dire répondre à ma science, pourquoi ce serait pas moi qui les aiderais à faire quelque chose? Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, je vais mettre un point d'honneur à bah, suivre ce que j'ai dit et à me dire, bah, en fait, je vais leur permettre de faciliter l'accès dans leur esprit, à quel point le dispositif est important pour eux, à leur donner un temps de parole, à les mettre dans une bonne ambiance et à leur permettre de faire un vrai point avant-après. Et c'est en pensant à ça que je me suis dit, bah, en fait, ouais, je vais vraiment essayer de leur servir à quelque chose, et même après l'enregistrement, essayer d'avoir une discussion avec eux, essayer de leur dire, bon, bah, la première fois, tu m'avais dit ça, là, tu m'as dit ça, bravo à toi, tu as avancé, et renforcer un petit peu l'impact du dispositif pour eux. Et c'est là où j'embrasse à la fois mon rôle de psychologue et mon rôle de chercheur. Et en fait, c'est aussi ce que j'adore faire, de me sentir psychologue dans la recherche aussi. Et pas juste un chercheur qui prend des rendez-vous, qui pose ses questions et qui ferme la visio, mais de me dire, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas être utile pour les participants, même dans les études scientifiques, leur permettre d'avoir des informations sur eux, de comprendre des choses. Je trouve que c'est quelque chose qui est à la mode et pour le bien, à la fois pour le bien pour les études, parce que je pense que ça peut bah, faire passer un bon moment et augmenter le nombre de personnes qui nous aident, et à la fois bien pour les participants qui peuvent grandir, apprendre, passer un bon moment. Et c'est un peu dans cette mouvance que maintenant je gère et que je compte gérer mes prochains sujets quand je fais de la recherche pour du privé. de me dire, mais pour impliquer les personnes en plus de mes modèles, est-ce que je pourrais pas leur apporter quelque chose? Et c'est pour ça que je réfléchis maintenant à me dire, est-ce que en plus, même si, même pour un questionnaire, est-ce que au-delà de passer un simple questionnaire, on peut pas donner une partie des résultats en expliquant à la fin à quoi ça a servi ou en permettant aux personnes de mieux se connaître sur quelque chose. Par exemple, si je mesure quelque chose sur leur personnalité et que je sais pas, je veux faire le lien avec leur productivité au travail, bah peut-être que je peux prévoir un petit retour automatisé sur bah, qu'est-ce que ce test de personnalité peut dire de la personne. Évidemment, il faut faire attention au côté éthique et on ne peut pas laisser les personnes avec des scores de dépression, avec voilà, des choses où on leur dit des choses sur eux et on les laisse dans la nature. Mais je trouve que c'est un petit switch nouveau et intéressant à avoir en tête en tant que chercheur, de se dire, mais si on essayait d'apporter quelque chose aux participants, plutôt que de leur quémander toujours, s'il vous plaît, donnez-moi 10 minutes de votre temps pour m'aider dans une étude. Et je trouve que la communication, même d'un point de vue marketing, serait beaucoup plus simple et beaucoup plus orientée sur vous voulez en savoir plus sur, j'en sais rien, votre santé, eh bien, vous allez apprendre à quel point vous êtes efficace sur la gestion de votre santé, et en plus, vous allez nous aider pour une étude scientifique. Et voilà comment je me projette sur faire de la science dans et avec du privé, c'est-à-dire d'aborder un point de vue, certes un peu plus marketing de la recherche, mais aussi fondamentalement plus humain, je pense. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que voir la recherche de cette manière, c'est lui redonner aussi beaucoup de sens, parce que c'est se reconnecter à notre objet de recherche, en tout cas en psychologie, qui est les hommes avec un grand H, les humains. Et voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant pour vous à écouter, que c'était facile à suivre, ou en tout cas vous avez pu suivre un petit peu globalement ma stratégie. Bah voilà, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Et si vous voulez que j'applique cette stratégie dans votre étude scientifique, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, ça y est, je commence à faire ma pub dans ce podcast. C'est que c'est trop avancé, il va falloir arrêter. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.